Bon, on va continuer notre survol des 66 livres de la Bible. Nous sommes rendus à la deuxième épître de Paul à Timothée. Donc, comme on le fait d'habitude, on va regarder dans notre étude, on va examiner les points suivants. L'arrière-plan, donc l'auteur, les destinataires, le lieu et la date de composition du livre, son contenu. Son but principal, ses thèmes et sa structure littéraire, les plans du livre et aussi quelques observations. Alors, le premier point qu'on va regarder, l'arrière-plan de la deuxième épître à Timothée. Donc, l'auteur, on sait, c'est clair, c'est l'apôtre Paul. Les destinataires, la lettre est adressée à Timothée, ce que son contenu confirme. Des détails personnels comme les mentions de Loïs et d'Eunice trouvent naturellement leur place dans ce genre de lettres et seraient très difficiles à expliquer autrement. Il en est de même des larmes de Timothée, de l'imposition des mains et de l'abandon de Paul. Les prières pour Onésiphore et la mention de sa quête difficile mais heureuse de Paul, ainsi que de ses activités antérieures à Éphèse, constituent le genre de données que l'on peut s'attendre à trouver dans une lettre privée. Il en est de même des avertissements personnels adressés à Timothée et de la brève section finale où Paul donne des nouvelles d'amis et de lui-même. Tout au long, la lettre est si personnelle qu'elle est probablement la plus difficile des trois pastorales à déclarer synonyme. La date et le lieu de composition. Nous croyons que la lettre avait été probablement écrite de Rome au cours d'un emprisonnement ultérieur à celui qui est décrit dans le livre des Actes. Si c'est le cas, la lettre fut écrite au début ou au milieu des années 60. Si l'on suit Eusèbe, qui date le martyre de Paul de 67, 2 Timothée doit être daté de cette même année ou de la précédente. Deuxième point qu'on va regarder, c'est le contenu de la deuxième lettre de Paul à Timothée. Il s'agit d'une lettre écrite à un moment où Paul envisage sa propre mort. Elle a donc le caractère d'une recommandation testamentaire. Une lettre écrite dans de telles circonstances porte une solennité toute particulière. Elle débute par la salutation formelle habituelle, avant de passer à la reconnaissance et aux encouragements. Timothée est alors exhorté à ne pas avoir honte de Paul, car Paul n'a pas honte de l'Évangile. Après des réminiscences historiques, Timothée est invité à être fort dans la grâce du Christ et se voit rappeler des éléments essentiels à l'Évangile. Il doit être un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, mais qui enseigne avec fidélité. Après cela vient une mise en garde contre les faux enseignants et des exhortations à une vie juste. Paul annonce des troubles dans les derniers jours où le mal fleurira sous diverses formes. Il confesse avec reconnaissance que le Seigneur l'a protégé dans ses difficultés et exhorte Timothée à persévérer dans l'enseignement qu'il a reçu depuis l'enfance, précisément dans l'enseignement des Écritures qui sont inspirées de Dieu et précieuses, d'où la recommandation faite à Timothée de prêcher inébranlablement la parole. Paul parle de l'imminence de sa mort et indique qu'il y est préparé. Suite à une série de remarques au sujet de certaines personnes et la mention de l'abandon subi par Paul, la première fois qu'il a présenté sa défense, la lettre s'achève par des salutations et une bénédiction. On va regarder maintenant le troisième point, le but principal de la deuxième épître de Paul à Timothée. Paul est de nouveau en prison. Il a été arrêté quelque part dans les provinces orientales, peut-être à Troas. Les conditions de son captivité sont bien plus rigoureuses que lors de sa première arrestation. Toutefois, il a eu l'occasion d'écrire cette lettre, sans doute par le truchement de Luc, et de l'envoyer, probablement par Tychée, à Timothée resté à Éphèse. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Dans l'usage épistolaire, l'expression pourrait aussi signifier « Je vais envoyer Tychique à Éphèse ». Ce qui voudrait dire non seulement que Tychique portera la lettre, mais qu'il devra remplacer Timothée à Éphèse pendant que celui-ci se rendra à Rome. Le but maintenant pratique. Le but immédiat de la lettre est de demander à Timothée de venir à Rome dès que possible, et en tout cas, avant la fermeture de la mer à la navigation. Paul n'a aucun espoir d'être libéré. Il désire vivement recevoir une dernière fois le disciple qu'il aime comme un fils, sans doute pour lui permettre ses dernières volontés et recommandations. En venant, Timothée doit aussi amener Marc et apporter les affaires laissées à Troas. Maintenant, un autre but de 2 Timothée, c'est donner des instructions. Timothée se trouvait engagé dans une position de responsabilité qui semblait parfois le dépasser. Combattre les faux docteurs, organiser le culte dans l'Église, choisir des évêques et des diacres, pourvoir aux besoins des veuves, enseigner la sainte doctrine. Ses épaules sont bien frêles pour de telles charges. Il doit avoir environ 35 ans. Sa santé est délicate. Il est plutôt timide. Il a besoin d'être exhorté et de recevoir encore des instructions supplémentaires précises sur certains points. L'apôtre n'est pas sûr de pouvoir lui transmettre de vive voix tout ce qu'il a sur le cœur. C'est pourquoi, tout en lui demandant de venir, il lui dit déjà l'essentiel. Donc, autre chose qui est contenue comme but principal, c'est celui presque d'un testament. Cette épître est le dernier document écrit de l'apôtre. Timothée, ne sachant pas qu'il reverrait son maître, a dû la lire comme l'expression de ses dernières volontés. Comme dans beaucoup de dernières paroles, le regard se pose à la fois sur le passé, le présent et l'avenir. Ces derniers passages contiennent des prophéties précises concernant l'apostasie qui marquera les derniers jours. Ce seront des temps difficiles où les hommes refuseront la sainte doctrine tout en gardant l'apparence de la piété. Ils renieront ce qui en fait la force. L'apôtre voyait déjà un signe avant-coureur de cette apostasie dans la multiplication des faux docteurs dans les églises. Mais l'épître doit essentiellement son caractère testamentaire aux nombreuses directives qu'elle contient. Les impératifs à la deuxième personne du singulier y abondent. Après le départ de l'apôtre, Timothée saura exactement ce qu'il doit faire pour rester fidèle à la pensée de Paul. Un testament, d'autre part, contient généralement un certain nombre de noms propres, ceux des légataires du testateur. 2 Timothée cite 23 noms de personnes. L'apôtre leur lègue son appréciation ou sa désapprobation. Onésiphore se voit attribuer un héritage plus précieux et plus durable que toutes les richesses matérielles. Loïs, Eunice, Marc, Luc sont immortalisés par l'approbation que l'apôtre leur décerne. D'autres, comme Phygèle et Herménogène, Hyménée et Philète, Démas, Alexandre, sont entrés dans l'histoire avec un blâme qui les stigmatise depuis plus de 19 siècles aux yeux de tous les lecteurs de la Bible. Quatrième point qu'on va regarder, c'est les thèmes et la structure littéraire de 2 Timothée. En 2 Timothée, Paul écrit comme une personne sachant que ses jours sur terre sont comptés et qu'il est près de la mort. Il sait qu'il sera bientôt libéré de ses lourds fardeaux. Le pieux apôtre cherche à faire comprendre à Timothée ce qui l'attend et à le fortifier dans son ministère à Éphèse. Il sait que Timothée est fidèle, mais qu'il est timide. En dépit de ses circonstances difficiles, il veut encourager Timothée à la persévérance dans la tâche que le Seigneur lui a confiée. Timothée se doit de comprendre la centralité, la nécessité et la solidité de la parole de Dieu dans son ministère. Paul met le focus sur le devoir de persévérer dans les épreuves présentes, chapitres 1 et 2, ainsi que le devoir d'endurer les épreuves futures, dans le chapitre 3 et 4. Alors, comme d'habitude, j'ai mis deux plans que vous allez, ceux qui écoutent ça par Internet, vous pouvez télécharger les documents PDF sur lesquels vous allez avoir les deux plans. Il y a un plan succinct, c'est-à-dire un plan très résumé de l'ensemble des Écritures. Dans le plan résumé et à la page 6, vous avez aussi le plan détaillé. Comme je le fais à chaque leçon, je recommande fortement à ceux qui veulent étudier 2 Timothée de se servir de ces documents-là lorsque vous étudiez, parce que ça vous donne le contenu de la lettre sous forme structurée, sous forme d'un plan. C'est très important pour être capable de bien comprendre le livre. Maintenant, on va tomber au sixième point, quelques observations sur 2 Timothée. Alors, on va parler d'abord de l'apport de 2 Timothée. Lorsqu'on étudie cette lettre, il faut garder à l'esprit la profonde conviction qu'avait l'auteur d'être au seuil de la mort à cause de sa foi chrétienne. Paul n'envisage pas d'écrire une autre lettre à Timothée, ni probablement à qui que ce soit d'autre. Il espère que Timothée pourra le rejoindre avant la fin. En demandant son manteau et ses rouleaux, il montre qu'il anticipait pourtant un certain délai avant son exécution. Néanmoins, la lettre est écrite dans l'ombre de l'échafaud et l'on peut y voir ce que Paul estimait important de dire pour la dernière fois à un adjoint de confiance. La lettre présente l'intérêt de montrer la manière dont un martyr chrétien fait face à la mort. Ceux qui vivent confortablement, en toute sécurité, auraient tort de déprécier cet apport, car dans de nombreux pays où les gouvernements sont antichrétiens, des gens continuent à mourir pour leur foi. D'ailleurs, davantage de chrétiens sont morts martyrs au cours du siècle et demi passé qu'au cours de l'ensemble des 18 siècles précédents. Le martyr est certainement plus courant que ne l'imaginent la plupart des chrétiens occidentaux. En conséquence, il est bon d'observer l'attitude de Paul alors qu'il va mourir pour le Christ. Sa contemplation sereine de ce qui l'attend et la foi tranquille qui sous-tend tout ce qu'il fait alors qu'il vaque à ses occupations. On ne trouve chez lui ni fanatisme ni démagogie. L'apôtre est dans une position d'humilité. Il donne l'exemple de la manière dont les chrétiens devraient mourir pour leur foi. Il écrit aussi sur la façon dont ils devraient vivre pour leur foi, même si cela suppose des souffrances. Paul met aussi en évidence quelque chose de l'importance de leur héritage. Il parle du bien précieux qui t'a été confié. littéralement le mot dépôt. Le même mot dépôt est utilisé au verset 12 avec probablement un sens assez proche. De même, il a beaucoup à dire sur ce que Dieu a fait, comme le montrent ses mentions de l'Évangile, puis de la puissance de Dieu, du salut, de l'appel à la sainteté, de la grâce donnée en Christ de toute éternité, et maintenant révélée par la venue de notre Seigneur, de la destruction de la mort et du don de la vie et de l'immortalité. Soit beaucoup d'informations de poids en seulement 3 versets. Il est à noter, et c'est important, que les croyants ne reçoivent pas une liste d'instructions sur ce qui constitue le chemin du service de Dieu, instructions qu'ils devraient ensuite déchiffrer et mettre en œuvre par eux-mêmes. Toute vie chrétienne repose sur l'œuvre déjà accomplie par Dieu. Paul montre bien que tout ce qui est attendu des chrétiens, c'est qu'ils vivent les conséquences de l'acte salvateur de Dieu. Ils peuvent le faire sans timidité, car Dieu leur a donné un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Conformément à cela, l'apôtre exhorte Timothée à transmettre l'enseignement à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Dans la foi chrétienne, il y a un donné. Il s'agit de quelque chose d'hérité depuis le moment où Dieu a commencé à agir en vue de notre salut. C'est quelque chose qui doit être transmis aussi longtemps que durera le monde. Paul n'est pas en train de prétendre que les croyants doivent être insensibles au courant de pensée et d'action du monde qui les entoure. Il ne présente pas non plus les chrétiens comme une sorte d'antiquaire qui s'intéresserait aux antiquités pour elle-même. Il dit que la foi chrétienne a ceci de particulier, que son essence n'est pas négociable. Dieu a dit et fait certaines choses, et les chrétiens doivent s'en tenir à ces choses, quel qu'en soit le coût. Il faut garder à l'esprit sa remarquable déclaration sur l'Écriture dans Timothée 3, 16 et 17. Dieu a parlé et on ne négligera ce qu'il a dit qu'à ses risques et périls. Paul ne cache pas que le coût de l'engagement de disciples peut être élevé. Il parle de souffrance, des siennes comme de celles des autres croyants. Il compare le service chrétien à celui d'un soldat, d'un athlète et d'un agriculteur qui travaille dur. Il ne cache pas à Timothée que le salut, s'il est un don gratuit de Dieu, est aussi exigeant. Lorsqu'il met en œuvre les implications, le croyant rencontre des difficultés et que le service de Dieu, qui a envoyé son Fils pour mourir sur la croix, a un coût. Paul utilise l'illustration des divers ustensiles de la maison. Certains sont coûteux, d'autres bon marché. Certains sont réservés aux grandes occasions, d'autres à l'usage courant. Le croyant doit viser à convenir à un noble usage. La purification est coûteuse. Le chrétien rencontrera de l'opposition, parfois de la part de personnes qui professent elles aussi la foi chrétienne. La lettre a notamment l'intérêt de mettre en garde contre ceux qui se sont écartés de la vérité. C'est d'autant plus vrai que les chrétiens d'aujourd'hui, comme Paul, vivent dans les derniers jours où certains auront l'apparence de la piété, mais rejetteront ce qui en fait la force. En conséquence, Paul souligne l'importance des saines paroles que certains rejetteront, choisissant des maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Paul ne se bat pas pour l'adhésion à quelque orthodoxie morte, mais plutôt il affirme que Dieu a posé un solide fondement qui demeure. Trois applications. Nous, les chrétiens, avons individuellement et collectivement, comme Église locale, plusieurs devoirs envers l'Évangile. Le premier, en connaître la puissance et persévérer à le faire connaître localement, régionalement et mondialement. C'est le moyen de libération ultime. Deuxièmement, le protéger contre les hérésies, les erreurs et les sectes qui pullulent de nos jours. Connaissons-en bien toutes les facettes et toute la richesse. Gardons sa pureté avec beaucoup de soin et de vigilance. Troisièmement, proclamons-le quotidiennement. Implorons le Seigneur de nous remplir de hardiesse et de nous libérer de nos peurs, de notre paresse et de notre indifférence envers les âmes perdues. Louons le Seigneur pour le dépôt qu'il nous a confié. Amen.